Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du jeudi 4 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Au Togo, nouveau report des élections législatives suite au projet de nouvelle constitution. Investi mardi, président du Sénégal, Diomaye Faye a logiquement choisi pour chef de gouvernement son mentor Ousmane Sonko.
Sans surprise pour la plupart des Sénégalais, certains même disaient qu'il fallait absolument Ousmane Sonko comme premier ministre. Ça fait une sorte de duo où l'un serait président et l'autre aurait le pouvoir.
Les forces vives en Guinée exigent le retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre 2024.
Ça pourrait juste naturellement déboucher sur des manifs qui n'est pas en soi quelque chose qui soit bien pour une transition qui se veut apaisée.
Analyse avec le politologue Fofana. En Afrique du Sud, la présidente du Parlement et figure majeure de l'ANC au pouvoir démissionne avec effet immédiat. En Éthiopie, Human Rights Watch réclame une enquête de l'ONU sur des exécutions de civils par l'armée dans l'état régional de l'Amara. En Israël, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre et rival principal du Premier ministre Netanyahou, appelle à des élections anticipées. L'OTAN marque ses 75 ans. L'Alliance Atlantique est plus préoccupée que jamais par l'Ukraine. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen en Chine pour plaider contre les pratiques déloyales. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Le président du Togo a annoncé mercredi le report des élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril. Ce report survient après plus d'une semaine de remous politiques, l'opposition et la société civile contestant l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de nouvelle constitution. Mohamedou Oumfa.
Le gouvernement procédera à un léger réaménagement du calendrier des élections législatives et régionales, a indiqué un communiqué de la présidence qui ne précise pour autant pas de nouvelles dates. Le report des élections fait suite à la demande du chef de l'État de procéder à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle votée le 25 mars en vue d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale, a expliqué la présidence. Le 25 mars, les députés togolais avaient adopté une nouvelle constitution visant à faire passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Cette réforme a été vivement contestée par l'opposition et par la société civile qui y voit une manœuvre du président pour se maintenir au pouvoir, ce qui avait poussé le chef de l'État, Fonia Simbé, à demander un nouveau vote des députés quelques jours plus tard. En vertu de la nouvelle constitution, il revient au Parlement togolais d'élire le président de la République sans débat et pour un mandat unique de 6 ans. Au terme du nouveau texte, le pouvoir résidera entre les mains d'un président du Conseil des ministres, sorte le premier ministre désigné par les députés en charge des fonctions régaliennes. Son mandat doit être de 6 ans sans qu'il soit précisé s'il sera renouvelable ou non. C'est ce point qui inquiète l'opposition, qui craint que Fonia Simbé ne soit désigné à cette fonction, assurant son maintien au pouvoir pour une durée indéfinie.
En Afrique du Sud, la présidente du Parlement, Nosiviwe Mapisa Nakakula, visée par des accusations de corruption, a cédé sa fonction. Son parti, l'ANC, au pouvoir a confirmé la démission. Les électeurs sud-africains seront aux urnes dans 2 mois pour des élections législatives cruciales. Rosine Munenzelo.
Présidente du Parlement depuis 2021 et membre du tout-puissant comité exécutif national de l'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, Mapisa Nakakula est accusée d'avoir perçu d'importantes sommes en espèces d'un contractant militaire lorsqu'elle était ministre de la Défense 2014-2021. Après une perquisition à son domicile il y a 2 semaines, la figure politique de 67 ans avait déposé un recours pour tenter d'éviter une arrestation qu'elle a qualifiée d'illégale au vu des minces preuves rassemblées contre elle. Un recours que la justice avait rejeté, ouvrant ainsi la voie à une possible arrestation de cette figure du parti au pouvoir. Ce tribunal n'est pas en mesure de déclarer qu'une arrestation qui n'a pas encore eu lieu est illégale ou qu'elle serait illégale, a estimé la juge Soulette Potterill au tribunal de Pretoria, annonçant ne pas donner suite à ce recours. L'affaire survient à 2 mois d'élection générale à risque pour le parti historique en perte de popularité, notamment en raison d'une réputation entachée par les affaires. Les Sud-Africains sont appelés aux urnes le 29 mai pour renouveler leur parlement qui désignera le prochain président.
Le parquet soudanais affilié au chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan a ouvert mercredi une enquête contre l'ancien premier ministre Abdallah Hamdok pour des chefs d'accusation passibles de la peine de mort, a indiqué la télévision d'État. Il est accusé de violer la constitution et d'inciter à la guerre contre l'État, d'après la télévision officielle. Il vit aujourd'hui à l'étranger comme les autres accusés. Human Rights Watch a appelé ce jeudi l'ONU à enquêter sur les exécutions de plusieurs dizaines de civils par l'armée éthiopienne fin janvier dans la localité de Merawi, dans l'état régional de l'Amara, en proie à un conflit. L'ONG appelle en outre ONU et Union africaine à suspendre tout nouveau déploiement de contingents éthiopiens au sein des opérations de maintien de la paix tant qu'il n'y a pas de... Tant que les accusés, les responsables n'ont pas rendu compte. Un ancien président de la Cour suprême de Guinée équatoriale en exil en France a déposé une plainte avec constitution de parti civil pour tentative d'enlèvement et séquestration, menace de mort et chantage. Organisation de protection des droits humains et chancellerie occidentale ont exprimé leur inquiétude après la décision mercredi de la Cour constitutionnelle ougandaise de rejeter une demande d'annulation de la loi anti-LGBT.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a décollé mercredi pour la Chine. Elle doit discuter de pratiques commerciales par Pékin que Washington estime déloyale. Cette visite intervient tout juste 8 mois après son précédent voyage. Lionel Lunanila Gahima.
Janet Yellen espère discuter des investissements massifs réalisés en Chine dans certains secteurs industriels, entraînant des surcapacités en matière de production. Ce voyage, deuxième visite dans le pays en moins d'un an, s'étendra jusqu'à mardi et doit débuter en Guangzhou, dans le sud, par une rencontre avec des chefs d'entreprises américains implantés sur place et des responsables locaux. Elle va s'entretenir notamment avec le vice-premier ministre avant de retrouver à Pékin son homologue, le premier ministre ainsi que le gouverneur de la Banque centrale. Nous nous inquiétons des conséquences que pourraient avoir les subventions chinoises dans ces industries sur l'économie américaine et d'autres pays, a expliqué Mme Yellen. Parmi les secteurs suscitant ces inquiétudes, la secrétaire au Trésor a notamment cité les batteries lithium-ion et les véhicules électriques. Interrogée sur la possibilité de mettre des tarifs douaniers sur la table pour faire pression sur la Chine, Janet Yellen a assuré ne pas vouloir exclure tout moyen nous permettant de protéger ses industries. La précédente visite de Janet Yellen à Pékin avait fait l'objet de beaucoup d'attention en Chine. Dans un éditorial, le quotidien d'État China Daily souligne que Janet Yellen est connue pour ses positions souvent pragmatiques et plutôt optimistes concernant les relations sino-américaines.
Le retour des Palestiniens déplacés par la guerre entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza est le principal obstacle à la conclusion d'un accord sur une trêve, a annoncé mercredi le Qatar, un pays médiateur. Le président Joe Biden et le premier ministre israélien ont prévu de se parler au téléphone ce jeudi, a indiqué un responsable américain. Didi Dico.
Le retour de personnes déplacées dans leur foyer que les Israéliens n'ont pas encore accepté est le principal point sur lequel nous sommes bloqués, a déclaré le Premier ministre qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani à Doha. L'autre point de discorde concerne le nombre de Palestiniens emprisonnés devant être libérés par Israël en échange d'otages enlevés par le Hamas le 7 octobre. Le Qatar, les États-Unis et l'Égypte sont engagés depuis des semaines dans des pourparlers en vue d'obtenir une trêve dans la bande de Gaza assiégée et menacée par une famine. Nous faisons de notre mieux pour trouver des solutions. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer qu'un terrain d'entente soit trouvé, a assuré le Premier ministre qatari. Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé le Hamas d'avoir durci sa position. Mercredi, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a accusé Israël de tergiversation.
Le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre et rival principal du premier ministre Netanyahou, a appelé mercredi soir à des élections législatives anticipées en septembre. L'OTAN marque ce jeudi ses 75 ans d'existence, et plus que jamais préoccupé par l'Ukraine, en difficulté sur le champ de bataille, faute de munitions et d'armement pour contrer la pression grandissante des forces russes. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nanit Talani.
La Côte d'Ivoire a inauguré hier à Boundiali, dans le nord du pays, sa première centrale solaire d'une capacité de 37,5 MW et lancé le projet d'extension de celle-ci pour un coût de 75,6 millions d'euros, financé par l'Allemagne, l'Union européenne et Abidjan. Ce projet doit faciliter l'électrification de villages et l'amélioration de la qualité de service de plus de 430 000 ménages. La Côte d'Ivoire veut doubler à l'horizon 2030 sa puissance énergétique, estimée actuellement autour de 2500 MW. Le pays exporte environ 10% de sa production d'électricité vers le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. Le Ghana va augmenter jusqu'à 50% le prix fixe payé aux producteurs de cacao, qui est actuellement de 1574,66 $ la tonne, pour que les agriculteurs bénéficient des avantages de la hausse des prix mondiaux et contrer la contrebande de fèves. C'est ce qu'a déclaré hier le COCOBOD, l'Office national de commercialisation du cacao.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À peine annoncée, la nomination du nouveau sélectionneur du Cameroun suscite déjà des remous.
Oui, dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, la Fédération camerounaise de football marque son grand étonnement de la nomination du nouveau staff des Lions Indomptables par le ministre des Sports, Narcisse Mouélé Kombi. Mardi soir, en effet, un communiqué du ministre des Sports annonçait la nomination du Belge Marc Brice à la tête des Lions Indomptables, assisté par François Oman Biyik, Achou Besson, Alioune Boukar et Germain Noël Essengué. Le technicien belge de 61 ans succède ainsi à Rigo Besson. Dans une lettre adressée hier au ministre des Sports, Samuel Etofis, président de la FECAFOOT, dit ceci, je cite, « La Fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l'absolu, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante de cet acte dénudé de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins avec les dispositions légales et réglementaires. » Fin de citation. Analyse avec Joseph Valéry Fotso, journaliste sportif à la radio Siantou à Yaoundé.
Pour moi, le ministre n'a pas à nommer un entraîneur. Ça se fait sur proposition, il signe sur proposition du président de la FECAFOOT et le tour est joué. Le décret parle de proposition du président de la fédération. Donc le président de la fédération avait proposé à l'État qu'il peut se retrouver même à la primature ou à la présidence de la République. La différence, c'est que c'était sur proposition du président de la FECAFOOT que Rigobert Song a été nommé, d'où les hautes instructions. Mais cette fois, c'est sur proposition du ministre. C'est clair que ça viole déjà les textes et les statuts. Donc pour moi, sur le plan de la forme, le ministre n'avait pas à le faire. Et puis, par rapport à la manière même, on sent bien qu'il y a eu une envie manifeste de mettre de côté la Fédération Camerounaise de football dans cette gestion. On sait que, quoi qu'il en soit, on ne peut pas avoir un entraîneur de foot pour les Lions sans que la Fédération ne soit au courant. C'est le désordre. On a même envie de parler de règlement de compte à ce niveau par rapport au scénario passé. Et je vais le dire ainsi, les anciens qui ont été virés à l'arrivée de Samuel Eto'o sont en train de revenir. Ouais, donc c'est clair qu'il s'agit, ni plus ni moins que des règlements de compte. Généralement, les illustres inconnus sont venus se faire des noms au Cameroun. Donc pour moi, je n'ai pas un problème avec l'entraîneur. Ceux qui sont venus, je peux me retrouver au niveau du poste de coordonnateur. Celui qui a été ancien secrétaire général de la FECAFOOT qui est parti sous des tensions avec le président de la fédération. Je rappelle que le bureau de la coordination est situé à la fédération. Va-t-il aller aller travailler là-bas ou on va faire un autre bureau ailleurs. Dans quel environnement ils vont travailler puisque l'administration est gérée par la FECAFOOT et il devra même pour la documentation aller à la FECAFOOT. Comment cela va se passer, en tout cas là est toute la question. Sur le plan du droit, je crois que pour qu'un contrat soit homologué par la FIFA, il va falloir que la fédération signe. Si la fédération refuse de signer, il y aura forcément un blocage.
Joseph Valérie Fotso, journaliste sportif à la radio Siantou à Yaoundé.
C'était Yakuba Ouedraogo dans sa page des sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakizadeh retourne avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Sénégal, le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé mardi soir au poste de Premier ministre la figure clé de son élection, Ousmane Sonko. Ancien collègue et militant du même parti, l'ex-PASTEF, les deux hommes pourraient bénéficier de leur proximité pour une collaboration efficace au sein du pouvoir exécutif. Cependant, de nombreux observateurs craignent des tensions futures entre les deux hommes. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa a joint à Dakar le journaliste et politologue Ibrahima Bakoum.
Sans surprise pour la plupart des Sénégalais, certains même disaient qu'il fallait absolument Ousmane Sonko comme premier ministre. Ça fait une sorte de duo où l'un serait président et l'autre aurait le pouvoir de décision, le pouvoir de proposition, le pouvoir de gestion. Évidemment, ça ne se verrait pas dans la rue, ça ne se comprendrait pas que les gens puissent dire « nous avons élu un tel et puis voici celui qui dirige », mais ça peut arriver qu'ils s'entendent en duo totalement complice.
Donc, selon vous, on pourrait assister à un renforcement des pouvoirs du Premier ministre pour permettre à M. Sonko d'avoir suffisamment de coups de franges pour mener à bien le programme politique qui a été soutenu par les deux hommes.
Diomaye, il avait déjà dit, il était encore juste candidat, qu'on irait effectivement dans ce sens, réduire les pouvoirs du président de la République, parce que nous avons ici un présidentialisme très fort. Le président décide presque de tout, il nomme aux fonctions civiles et militaires en toute discrétion. Là, évidemment, ça pourrait être, mais ça, ils en décideraient. Éventuellement, si ça doit passer par une modification de loi, on verra toujours, mais n'oublions pas que probablement d'ici la fin d'année, on aura de nouvelles élections législatives et à ce moment-là, il pourrait dire exactement quelle place pour le Premier ministre, quelle place pour le Président de la République.
Il n'empêche qu'il pourrait y avoir des tensions entre les deux hommes. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, provoquer les frictions entre les deux personnalités?
Bon, c'est vrai, comme on dit, ils sont de régions différentes. Ça, il faut bien qu'on le note. Bon, la Casamance, donc région d'Ousmane Sonko, évidemment, est traversée par tensions. Bon, ça va, maintenant, ça s'est calmé. Mais on ne sait jamais, il y a toujours des forces quelque part qui peuvent venir interférer. N'oublions pas que tous les deux ont des belles familles, et quand j'ai des belles familles, chacun des deux a deux belles familles, parce que deux épouses. Au Sénégal, ça peut également avoir un rôle négatif à jouer quelque part.
Mais on imagine bien que le président Diomaye ne se contentera pas d'inaugurer les chrysanthèmes. Qui aura le dernier mot selon vous pour les décisions politiques majeures?
Vous savez, il dépend du degré de confiance, de respect, de tout ce que vous voulez. Parce que si Diomaye continue encore à penser que le véritable président, si les Sénégalais l'ont élu lui, c'est parce que il serait l'ombre de Ousmane. À ce moment-là, bon, ça ne devrait pas le gêner que Ousmane occupe un truc. Mais vous savez, l'appétit également vient en mangeant. Je ne doute pas qu'arrivera un moment où il va vouloir avoir un peu plus de place dans la table, quoi. Et ça peut donner effectivement à des tensions.
Alors, est-ce qu'on pourrait assister à un scénario à la Poutine-Medvedev?
On en parle ici, effectivement. Ousmane Sonko, qui se contenterait de la primature, poste de Premier ministre, l'autre termine son mandat dans 5 ans. Bon, si, entre-temps, ils n'ont pas commis de faute de gestion, de telle sorte que les Sénégalais voudraient rapidement en finir, si ce n'est pas le cas, évidemment, à ce moment-là, oui, on pourrait aller encore à une élection, Ousmane président, et s'il gagne, évidemment, il fait de Diomaye son premier ministre, bon, seulement il cherche un autre premier ministre, parce que Diomaye aura à ce moment-là à montrer ses capacités ou ses limites.
Ibrahima Bakoum, journaliste et politologue sénégalais.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Les forces vives de Guinée, regroupant les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile, demandent à la junte de respecter l'accord signé avec la CEDEAO en octobre 2022, en rétablissant le calendrier prévoyant le retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre 2024. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint à Conakry le politologue Kabinet Fofana, président de la Société guinéenne de sciences politiques.
C'est une sortie qui est donc une réponse au discours du Premier ministre le 26 mars dernier qui a donc échangé avec les acteurs politiques et qui leur a dit que les élections normalement prévues cette année ne pourront pas avoir lieu à cause justement du fait que le calendrier soit imprescriptible et que les activités permettant donc de faire tenir ces processus-là ne soient pas encore mise en œuvre.
Justement, une nouvelle constitution qui est prévue, entre autres, il y a un fichier électoral à nettoyer, il y a un code électoral, bien sûr, à retoucher. Tout cela n'est pas encore entrepris. Pourquoi, selon vous?
C'est difficile de dire les raisons, à part que ce soit peut-être un manque de volonté, parce qu'il faut rappeler que depuis septembre 2021, tout ce qui était tenu pour être en fait des préalables au retour à l'ordre constitutionnel sont plus ou moins pas mêlés avec plus d'engagement, plus de responsabilité, mais aussi de volonté politique réelle. Et puis il y a aussi quand même que dans le chronogramme, et bien que validé par la CEDEAO, ce chronogramme-là a des activités qui ne sont pas essentielles au retour à l'ordre constitutionnel. Le fait de les avoir comme étant des activités inhérentes au retour à l'ordre constitutionnel, constituait naturellement un problème de glissement de mandat, mais aussi de prolongement d'une certaine façon des activités concourant au retour à l'ordre constitutionnel.
Est-ce qu'il faut craindre?
Tout ce monde qui se réclame du FNDC, mais aussi des forces vives de manière générale, parce que vous y avez le RPG arc-en-ciel, l'UFDG, qui sont des partis très très importants, et en termes aussi de trame et de considération dans le corps social guinéen, le FNDC n'est pas à négliger, donc perdre la légitimité donc des Guinéens, politiquement, c'est quelque chose qui est important, sans compter le fait que ça pourrait naturellement déboucher sur des manifs, qui n'est pas en soi quelque chose qui soit bien pour une transition qui se veut apaisée.
En gros, est-ce simplement un manque de volonté politique de la part des autorités en place?
Oui, en fait, c'est un manque de volonté politique qui nous a amené à une réalité de fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il faut organiser le scrutin présidentiel, même avant celui référendaire, vous avez besoin d'avoir un fichier électoral. Et s'il faut extirper du RAVEC seulement le fichier électoral, il va sans dire que l'on n'aura pas les élections cette année. Si les élections doivent se tenir, il faut une loi électorale. Et là-dessus, on n'a pas encore une loi électorale stabiliser et tenir, à moins que l'on nettoie un peu la loi électorale et celle sur la Cour constitutionnelle. Alors, le réalisme nous prouve que si on tient à ce que les élections se tiennent conformément au chronogramme de la transition tel que conclu avec la CEDEAO, on ne pourra avoir probablement que le scrutin référendaire cette année.
Le politologue Kabinet Fofana, président de la Société guinéenne de sciences politiques. Les familles musulmanes déplacées par le conflit dans l'est de la RDC observaient le ramadan dans des conditions difficiles, en érigeant des mosquées improvisées dans les camps de déplacés et en partageant leurs maigres provisions pour rompre le jeûne. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Déplacées par les conflits autour de leur ville natale de Saké, cette jeune famille musulmane pratiquante va passer le ramadan à vivre d'une ration alimentaire dérisoire de riz et de quelques boîtes de sardines. Mais le chef de famille, Abdourahmane Kikandi, se dit tout de même chanceux.
Le jeûne est une grâce divine que nous n'avons qu'une fois par an. C'est pourquoi je me force à jeûner. Mais il est très difficile de jeûner en déplacement. Si nous étions à la maison, nous aurions de quoi rompre notre jeûne chaque soir. Nous avons fui la guerre sans rien emporter. Et quand je suis revenu à la maison chez moi, j'ai constaté que tout avait été emporté par les voleurs. Même la nourriture que nous avions en stock avait été emportée.
Des milliers de civils ont fui vers la ville de Goma en début de mois, alors qu'une nouvelle avancée des rebelles du M23 près de Sake, la ville voisine, menaçait d'isoler les quelques 2 millions d'habitants à majorité musulmans.
La guerre est maintenant concentrée autour de Sake, et Sake est le berceau de l'islam dans la province du Nord Kivu, où toute la première mosquée de la province a été construite. Et c'est une ville qui compte beaucoup de musulmans. À cause de la guerre, les musulmans, comme tout le monde, se sont dispersés dans plusieurs camps de personnes déplacées. À cause de cette guerre et de la difficulté actuelle de la vie, nous ne savons pas comment nourrir nos fidèles avec suffisamment de nourriture pour rompre le jeûne de ce Ramadan.
Les musulmans du camp du Lac Vert ont érigé des mosquées de fortune au milieu des tentes, distribuant le peu de nourriture disponible pour la rupture du jeûne.
Nous jeûnons dans des conditions très difficiles pendant ce Ramadan. Nos enfants n'ont ni repas pour commencer le jeûne, ni repas pour le rompre. Nous n'avons nulle part où trouver de la nourriture. Et si nous retournons à Sake pour en chercher, nous sommes attaqués par les rebelles. En fait, ma maison a été démolie et je n'ai plus rien. Mes frères, venez nous aider. Nous souffrons beaucoup. Priez pour nous. Ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui. Que la paix nous soit apportée pour que nous puissions rentrer chez nous.
Les nouveaux arrivants en provenance de Sake, où se trouve la première mosquée de la province du Nord Kivu, ont rejoint les centaines de milliers de personnes déjà déplacées autour de Goma depuis 2022 en raison du conflit en cours.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les États-Unis étaient scandalisés par la frappe israélienne qui a tué cette travailleuse d'une organisation caritative basée à Washington, D.C. Il a appelé Israël à faire davantage pour assurer la protection des civils et des travailleurs humanitaires. C'est un reportage de Cindy Sain, le récit est de Rosine Munezero.
Le groupe d'aide World Central Kitchen, qui nourrit les personnes souffrant de catastrophes naturelles et de guerre, dit avoir suspendu ses opérations à Gaza après qu'une frappe aérienne israélienne a touché son convoi alors qu'il quittait un entrepôt chargé de nourriture. Un responsable américain a confirmé qu'un citoyen canadien possédant également la nationalité américaine figurait parmi les 7 personnes tuées. Les véhicules blindés transportant les denrées alimentaires portaient clairement le logo WCK. Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a réagi comme suit lors de la conférence de presse de mardi.
Nous avons été scandalisés d'apprendre qu'une frappe de FBI a tué hier un certain nombre de travailleurs humanitaires civils de la World Central Kitchen qui a travaillé sans relâche pour apporter de la nourriture à ceux qui ont faim à Gaza et, franchement, dans le monde entier.
La World Central Kitchen est dirigée par le célèbre chef José Andrés. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président Joe Biden a pris contact avec lui.
Le président a fait savoir qu'il était en deuil avec toute la famille de la World Central Kitchen. Le président a estimé qu'il était important de reconnaître l'immense contribution de la World Central Kitchen aux habitants de Gaza et du monde entier. Le président a fait savoir qu'il ferait comprendre à Israël que les travailleurs humanitaires doivent être protégés.
Aux côtés de son homologue français lors d'une visite à Paris, le secrétaire d'État Anthony Blinken a qualifié les travailleurs humanitaires de héros qui doivent être protégés.
Nous avons parlé directement au gouvernement israélien de cet incident particulier. Nous avons demandé une enquête rapide, approfondie et impartiale pour comprendre exactement ce qui s'est passé.
Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a été plus direct dans sa condamnation de l'attaque israélienne.
Permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme à la frappe israélienne qui a conduit à la mort de 7 humanitaires de l'ONG World War Central Kitchen. La protection du personnel humanitaire est un impératif moral et juridique auquel tout le monde doit se tenir.
L'armée israélienne a exprimé mardi sa sincère tristesse au sujet de la frappe aérienne et a déclaré que les responsables examinaient l'incident au plus haut niveau. Selon les experts, les enfants et familles palestiniens sont au bord de la famine et cette attaque ne fera qu'aggraver la situation. La guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre dernier lorsque les militants du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël, tuant quelques 1200 personnes. Israël a répondu par une offensive de 6 mois, tuant quelques 33 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, sous contrôle du Hamas.
Et les corps des 6 travailleurs humanitaires tués sont arrivés hier mercredi en Égypte afin d'être rapatriés dans leurs pays respectifs. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à ce micro. Lionel Namila Gahima a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et sur vos pages Facebook, YouTube et la plateforme Instagram. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.